en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
C'est à la découverte du Japon et en particulier du bouddhisme que vous invite Canal Académie dans cette émission en compagnie de Jean-Noël Robert, qui a été élu membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres en 2006, au fauteuil d'André Kako, qui était un grand savant des religions sémitiques comparées et en particulier des études qumraniennes. André Kako s'est éteint en 2004. Alors avec l'élection de Jean-Noël Robert, l'Orient, l'Extrême-Orient, est à l'honneur et en particulier le Japon, sa langue, ses religions et sa civilisation. L'Académie des inscriptions et belles-lettres entretient des liens profonds avec la société asiatique, avec les orientalistes depuis très longtemps, que ce soit les arabisants, les sinologues, les indianistes, les japonologues et autres savants. Alors parmi vos principales publications, on peut citer un dictionnaire encyclopédique du bouddhisme d'après les sources japonaises et chinoises, une petite histoire du bouddhisme, et puis la doctrine de l'école japonaise Tendai au début du 9e siècle, votre thèse, et puis évidemment des traductions puisque vous êtes philologue, et parmi lesquelles on peut citer le Sutra du Lotus, le livre des sens innombrables, le livre de la contemplation du sage universel et quatre courts traités sur la terrasse céleste qui vient de paraître. Alors Jean-Noël Robert, bienvenue à Canal Académie.
Eh bien, bonjour madame.
Je vais décrire très rapidement votre parcours. Vous avez étudié à l'Institut National des Langues Orientales, l'INALCO. Vous êtes entré au CNRS et puis vous avez enseigné à l'École pratique des hautes études où vous êtes actuellement directeur d'études dans cette grande institution savante. Comment vous êtes-vous intéressé au Japon et à la culture japonaise?
C'est une question que l'on m'a souvent posée. Et malheureusement, je suis toujours obligé de répondre par la même chose parce que je me souviens très bien des raisons. Alors, on pourrait à chaque fois trouver des raisons différentes, mais ça a été une sorte de, je pourrais dire, de vocation très bien datable. C'était en juillet 1962. J'avais 12 ans et demi et je lisais une encyclopédie qui s'appelait hebdomadaire qui s'appelait Tout l'univers.
J'ai vu ça dans les greniers de ma famille.
Cette encyclopédie hebdomadaire présentait de très belles illustrations d'ailleurs qui ont mérité d'être rééditées. Elle a été rééditée dans les années 80, il me semble. Oui. Et il y avait, en plus du contenu, il y avait une couverture détachable de 4 pages qui donnait des pages d'une encyclopédie permanente que l'on rassemblait peu à peu. Et j'étais arrivé où ils étaient arrivés à la lettre E, E comme écriture. Et il y avait ces 4 pages qui présentaient les écritures du monde, n'est-ce pas ? Je me souviens encore de l'éblouissement que j'ai vu d'abord en découvrant la variété des écritures. À l'époque, je savais qu'il y avait le grec et guère autre chose, puisque à l'école, on nous apprenait l'origine de l'alphabet latin, donc grec, phénicien, tout cela, ça allait encore, mais je me souviens encore de la liste des écritures. Vous aviez toutes les écritures indiennes extraordinairement tarabiscotées. Par exemple, l'écriture du Canada, canarès, n'est-ce pas, ou de l'Orissa, etc. Et puis, c'est surtout l'écriture chinoise qui m'a absolument fasciné. Et je me suis dit, c'était le début des vacances, je me suis dit, je vais apprendre tout ça. Alors, j'ai vite vu que ça allait être un peu difficile, mais dès la rentrée, j'entrais en quatrième, n'est-ce pas ? Dès la rentrée, je commençais l'étude du grec. J'ai acheté l'assimile, la publicité, l'assimile de russe. Je me suis inscrit en cours d'hébreu hebdomadaire au lycée Claude Monet, qui était un lycée de filles à l'époque, mais il y avait des cours d'hébreu, je m'y suis inscrit. Et j'ai essayé de trouver une méthode de chinois, parce que c'était quand même ça que je voulais.
Vous étiez déjà, très précocement attiré par les langues, par l'étude des langues.
C'était les écritures, vraiment. Parce que, à vrai dire, les langues qui étaient écrites avec l'alphabet latin, ça m'était vraiment complètement indifférent. C'était les écritures. Et j'ai commandé, je me souviens encore de cette histoire un peu invraisemblable, j'ai commandé à mes parents pour Noël la méthode linguaphone de chinois. C'est encore de la publicité, j'en suis désolé. Et cette méthode linguaphone de chinois, nous étions en 62, presque en 63 pour Noël. Et je sais que la France n'avait pas encore reconnu la Chine. La Chine, à l'époque, pour le monde occidental, c'était Taïwan, qui est un pays tout à fait respectable que j'aime beaucoup, mais disons qu'il n'avait pas d'importance diplomatique. très grande, si bien que le chinois était complètement délaissé. Et la méthode linguaphone de chinois avait été disponible à l'époque, avait été faite en 1949. Elle était en anglais et elle était encore sur disque 78 tours. C'est vrai, parce que personne ne l'achetait. Si bien qu'en recevant les disques 78 tours de la méthode linguaphone de chinois, j'ai dû acheter un électrophone qui est un dispositif pour les disques à 78 tours qu'on n'utilisait déjà plus à l'époque, puisque c'était 33 ou 45 tours. Si bien que ça m'a conduit à faire un peu de l'anticariat électrophonique. J'écoutais religieusement ces disques qui... Alors, la méthode linguaphone de chinois a été complètement réécrite, mais à l'époque, elle ne servait quasiment à rien. Par exemple, dans le vocabulaire usuel, je ne le regrette pas d'ailleurs, vous aviez encore l'écritoire traditionnelle, n'est-ce pas?
Oui.
Qu'on n'utilise déjà plus en 1962, vous l'imaginez bien. C'était le pinceau, la boîte à pinceau, des choses. Et c'était très intéressant. Mais le grand avantage...
Alors, vous avez appris seul?
Oui, au début, oui. Et puis, si je peux encore parler un peu de cela, mais le grand prix de cette méthode, que j'ai découvert bien plus tard, c'est que les disques qui avaient été enregistrés n'avaient pas été enregistrés par n'importe qui. C'était l'un des plus grands linguistes chinois, Chao Yuanzhen, qui enseignait aux États-Unis et qui est celui qui a en quelque sorte élaboré la langue chinoise moderne. C'était un linguiste qui a nettoyé le pékinois, le dialecte de Pékin pour le mener à une sorte de langue épurée qui pourrait être la langue nationale. Et il avait fait lui-même, il avait confectionné son standard, si bien que ses disques en réalité étaient le reflet d'un chinois qui était parlé à l'époque par une seule personne, Chao Yuanzhen. Bon, c'est très proche du chinois standard actuel, mais en réalité c'est une sorte de chaînon manquant dans l'évolution de la langue chinoise que je conserve précieusement. Et alors, c'était la Chine, comme vous le voyez, ce n'était pas le Japon. C'est vrai que pour moi, le Japon était encore quelque chose dans la nébuleuse chinoise. Il y avait dans cette couverture de tout l'univers, il y avait quelques signes japonais, quelques signes cursifs japonais, mais qui m'avaient moins frappé. Mais quand même, à l'époque, nous approchions des Jeux Olympiques, le Japon commençait à être à l'ordre du jour, et je voulais me mettre à l'étude du japonais. Mais alors que le chinois me semblait assez facile d'accès, je réalise à quel point je dis des blasphèmes en disant cela, mais c'est vrai que l'entrée dans le chinois peut être relativement facile pour celui qui n'y comprend pas grand-chose, c'est-à-dire qu'on se dit, il suffit d'apprendre par cœur des caractères, on finira bien par y arriver. Pour le japonais, c'était
c'est
pas
différent.
Du tout... C'est parce que la langue japonaise n'est pas du tout de même type que la langue chinoise. La langue chinoise, on a l'impression qu'il suffit de mettre des briques ou des dominos les uns derrière les autres et qu'on arrive à faire quelque chose. D'ailleurs, la syntaxe n'est pas si différente sinon du français, du moins de l'anglais. C'est pratiquement lorsque vous mettez si vous traduisiez des textes anglais mot à mot en chinois, ça pourrait donner quelque chose de compréhensible. Le japonais, lui, est une langue d'une syntaxe beaucoup plus complexe, qu'on appelait à l'époque les langues agglutinantes, n'est-ce pas, avec des Le verbe vient à la fin, les compléments avant, et c'était très long. Si bien que j'avais renoncé au japonais jusqu'au bac. J'ai acheté beaucoup de méthodes de japonais, mais je devais déchanter. Et ce n'est qu'au bac que je me suis inscrit en chinois et en japonais à l'école des langues orientales, et là j'ai pu enfin pénétrer dans la langue japonaise.
Quels sont vos mots préférés, puisqu'on parle de la langue japonaise? Quels sont vos mots préférés de la langue japonaise?
C'était une question très, très amusante. Elle est très intéressante aussi parce que c'est incroyable de voir à quel point le vocabulaire fondamental, pour le vocabulaire abstrait en quelque sorte, ou émotionnel, sentimental, à quel point cela diffère du français. Il y a très peu des mots les plus courants de la langue japonaise sont transposables directement en français, traduisibles directement, et l'inverse est vrai aussi.
Oui.
Lorsqu'on essaye de traduire des mots très courants, des tournures très courantes de la langue française, parfois on est très embarrassé. C'est très amusant de les traduire littéralement d'ailleurs. Mais j'aime beaucoup un mot qui est très difficilement transposable en français, qui est natsukashi, n'est-ce pas? Natsukashi ou natsukashisa, lorsque c'est un... Natsukashi est un adjectif, natsukashisa c'est le substantif. Ça veut dire ce qui provoque une nostalgie, n'est-ce pas? Un souvenir, un paysage, une lecture. Et c'est quelque chose de très parlant dans la langue japonaise que j'aime beaucoup. D'ailleurs, vous verrez que beaucoup de japonisants l'utilisent parce qu'on n'a pas de mots français
pour l'exprimer.
comme je suis marié avec une japonaise, il y a beaucoup de mots qui viennent le plus souvent, qui viennent très, très souvent, plus facilement en japonais qu'en français. Par exemple, muri. Muri qui veut dire le ce qu'il est inutile de faire, n'est-ce pas, parce qu'on se casserait les dents. Et ce n'est pas aussi joli à l'oreille que Natsukashi, mais c'est très parlant aussi. Et c'est beaucoup de choses de la vie quotidienne que cela. Et j'aime beaucoup les certains noms de fleurs japonaises, comme oui. Sakura, évidemment, la fleur de cerisier. Le japonais est une langue d'une phonétique très simple. Toutes
mais
les syllabes
sont. Quelles sont ces particularités? Puisque vraiment, là, on va demander aux spécialistes.
Par exemple, justement, la phonétique des langues japonaises est très simple. À part quelques sons qui sont un peu difficiles à maîtriser pour les Français, l'essentiel passe, n'est-ce pas? Vous pouvez pratiquement prononcer tel quel, avec un petit bémol certainement, mais disons que vous n'avez pas à faire le travail d'articulation que vous avez à faire pour prononcer le moindre phonème anglais, puisqu'en anglais, entre l'anglais et le français, comme d'ailleurs entre l'anglais et le japonais, pratiquement tous les phonèmes sont différents, n'est-ce pas? Vous n'avez pas pratiquement pas de son commun. Pour le japonais, c'est beaucoup plus facile. Les syllabes sont ouvertes. Les consonnes n'ont pas, par exemple, la triple articulation qu'ont les consonnes coréennes, ce qui rend le coréen une langue très difficile à prononcer correctement pour les occidentaux. Le grand problème, la grande difficulté du japonais vient d'abord de l'immense richesse du vocabulaire sino-japonais, qui est surtout, enfin, accessible à la vue plutôt qu'à l'oreille, si bien qu'il faut avoir une bonne connaissance de langue écrite, souvent pour distinguer dans la multitude des homophones, n'est-ce pas, des mots qui se prononcent de la même façon, pour distinguer le sens correct. Je me souviens d'une amie interprète qui me disait quelques-unes des bourdes qu'elle avait commises en faisant de l'interprétariat simultané. Parce qu'il faut dire que le japonais aussi, malheureusement, on n'étudie pas vraiment à l'université, mais il a une accentuation extrêmement subtil, n'est-ce pas? Et en plus, qui diffère selon les provinces. Par exemple, les deux grands centres culturels que sont Tokyo et Kyoto ont une accentuation différente.
D'accord.
Et cet ami interprète me disait qu'une fois, par exemple, maintenant, n'est-ce pas, se dit ima en japonais, et le salon, c'est ima. Et elle traduisait la conférence d'un architecte qui disait Imades, n'est-ce pas? C'est un salon en présentant. Et mon ami traduit et maintenant. Alors évidemment, les Japonais de la salle ont éclaté de rire, mais vous avez énormément d'erreurs de ce genre qui arrivent très souvent en japonais.
Est-ce qu'il y a un mot français qui n'est pas traduisible justement dans la langue japonaise? Il doit y en avoir plusieurs, mais quels sont ceux qui manquent ou sur lesquels le philologue bute le plus souvent? Ou peut-être sur des concepts ou sur des idées? Qu'est-ce qui...
L'un des mots, disons intellectuellement, on peut revenir, l'un des concepts qui passe le plus difficilement en japonais, il y a une tentative de traduction, mais que personne ne comprend parce qu'elle est un peu savante, c'est l'identité. C'est pas l'identité. Et le plus souvent, les Japonais utilisent identity pour traduire ce concept. On pourrait trouver, si j'avais mon mot à dire, on pourrait trouver des concepts bouddhiques qui s'en rapprocheraient.
Ah oui.
Mais malheureusement, c'est un vocabulaire aussi un peu abstru, ésotérique pour les Japonais
d'aujourd'hui.
Et comme les intellectuels qui ont élaboré le vocabulaire philosophique occidental de la fin du 19e siècle manquaient un peu de culture bouddhique, ils ont raté le coche en quelque sorte, et ils n'ont pas trouvé de mots satisfaisants pour traduire identité. Et c'est très intéressant, puisque maintenant on voit à quel point les problèmes d'identité, à la fois individuelle, nationale et culturelle, se posent à nouveau en Orient comme en Occident. Et ce mot qui manque est lui-même une sorte de symbole par le vide des problèmes d'identité japonais, en quelque sorte. Cette absence est très, très intéressante. Et
dans la langue française, quels sont les mots que vous aimez le plus? Alors là, c'est encore pire.
Oui, là, c'est... J'aime beaucoup Saperlipopette.
Ah ben voilà, très bien. Excellente réponse. Puisqu'on parlait de la langue japonaise et puis un peu des langues d'Asie, vous avez parlé de la langue coréenne, etc., du chinois que vous avez évoqué. J'ai une petite question comme ça. Est-ce qu'il y a au Japon l'équivalent des débats qu'on a ici sur l'éventuelle disparition de la langue française? Est-ce que parmi les langues d'Asie, il y a ce type de préoccupation au Japon pour, concernant la langue japonaise?
C'est vraiment une très intéressante question. Il y a quelque chose qui étonne beaucoup les Occidentaux, certes, mais surtout les voisins des Japonais et ces voisins difficiles à cause de l'histoire que sont les Coréens, qui vont très souvent au Japon et toujours dans un état d'esprit un peu ambigu, parce qu'ils vont à la fois c'est certainement le peuple de la terre qui leur est le plus proche, et en même temps qui leur est à l'égard duquel ils ont les mémoires, les souvenirs les plus pénibles. Et
pour des raisons d'histoire, de la colonisation,
dont on ne sort pas encore, à vrai dire, puisqu'il y a une forte minorité coréenne au Japon. Ce sont des problèmes très délicats, je m'aperçois que ce qui va de soi au Japon ne va pas forcément de soi, et en particulier la conscience que les Japonais ont de l'existence de leur langue. De l'existence de leur langue et de la... Alors, ça, c'est une espèce de construction imaginaire, mais les Japonais se sont persuadés que leur langue est en quelque sorte unique au monde. Toutes les langues sont uniques. Le japonais est certainement unique, mais l'italien aussi. Je pense qu'il n'y a qu'au Japon que vous avez une véritable industrie éditoriale, journalistique aussi, qui tourne entièrement autour de la langue japonaise. Le statut de la langue japonaise, l'avenir de la langue japonaise, pas tellement l'avenir en tant que langue...
Inquiétude.
L'inquiétude sur, disons, la nature de la langue japonaise, d'accord. Puisque le japonais, comme beaucoup d'ailleurs de langues du même type, est très perméable aux influences étrangères. Alors voilà.
Donc ils ont un rapport particulier avec leur langue...
Oui. Très conflictuel.
Enfin,
très
langue maternelle.
Fait d'inquiétude, presque de angst, n'est-ce pas? C'est très curieux, oui.
Quels sont vos auteurs préférés?
Malheureusement,
je veux dire, quels sont ceux que vous aimeriez nous faire connaître?
Malheureusement, je lis relativement peu de littérature moderne. Et lorsque j'ai la littérature moderne, c'est souvent de la littérature un peu populaire. Vous savez, je suis un grand amateur de romans policiers.
Oui.
Je lis beaucoup de romans policiers japonais et j'ai commencé et je garde un peu celui qu'on avait bombardé du titre qui n'est pas immérité de Simenon japonais, qui est Matsumoto Seicho, n'est-ce pas? Je crois qu'il y a plusieurs livres traduits de lui en français. Et je l'aime beaucoup pour plusieurs raisons. D'abord, ces romans sont bien construits. Ils souffrent de ce mal un peu endémique de la littérature japonaise, qui est que, à l'époque, Matsumoto Seicho est mort dans les années 70, il me semble, les écrivains écrivaient surtout pour des magazines ou des mensuels. C'était des feuilletonistes, n'est-ce pas? Alors, on publiait un roman policier par livraison, et puis après, l'écrivain se livrait, dans le meilleur des cas, un petit travail de réécriture pour transformer en roman. Mais très souvent, Matsumoto Seicho rafistolait mal ses romans, si bien que ça pêche un peu. Mais c'est un extraordinairement bon peintre de la société japonaise des années 50 et 60. Et d'accord. C'est alors toujours ce Natsukashi dont je vous parlais tout à l'heure, cette nostalgie. La description que Matsumoto Seicho fait de Tokyo, de vieux milieux sociaux japonais, me comble de nostalgie et je le cultive. Encore. Il y en a de beaucoup plus modernes et plus agressifs. Mais si je peux ajouter un mot sur Matsumoto Seicho, j'aime aussi énormément la diversité, la variété de son langage. C'est quelqu'un qui pouvait encore faire une... Lorsqu'un vieux personnage écrivait une lettre à quelqu'un, la lettre était encore écrite dans le vieux style épistolaire japonais que plus personne ne maîtrise à présent. Lorsque c'était en dialecte, il se donnait la peine de reconstituer le dialecte. Il avait une variété, un sens de la diversité linguistique japonaise qui me ravit encore, je dois dire.
Ne retrouvez pas aujourd'hui
c'est un peu par la force des choses. Le japonais, c'est considérablement... Oui, c'est un peu ce que nous disions tout à l'heure. Voilà. Le sujet de cette inquiétude, le japonais évolue considérablement. Si nous pouvons revenir tout à l'heure là-dessus, c'est très amusant, parce que vous savez, le japonais est une langue où ce qu'on appelle les honorifiques, c'est-à-dire tient énormément de place.
Les honorifiques, c'est...
C'est-à-dire vous ne pouvez pas émettre une phrase en japonais, enfin, si vous la dites à haute voix... avec quelqu'un qui vous entend, vous ne pouvez pas émettre une phrase sans vous situer par rapport à votre interlocuteur, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que soit c'est quelqu'un qui était considéré comme au-dessous de vous socialement, ou bien de même niveau, ou bien au-dessus. Et puis évidemment, il y avait dans ces trois positions, vous aviez deux ou trois sous-variantes. Si bien que toute, comme disaient les Anglais, utterance, n'est-ce pas ? Toute émission, tout énoncé, vous situait socialement. Et c'était extrêmement délicat. Alors, et pour les étrangers, vous vous en doutez bien, sauf que les étrangers bénéficiaient d'une sorte de statut d'extéritorialité, on pouvait leur pardonner beaucoup de choses. Mais pour les Japonais eux-mêmes, c'était tout à fait important, n'est-ce pas ? D'ailleurs, ça existe aussi en coréen et en javanais, dans quelques autres langues de l'Extrême-Orient. Cette gradation de la linguistique de la société est en train de disparaître. C'est-à-dire que maintenant, on va bientôt se retrouver avec un niveau à la française, avec deux, voire trois, disons plutôt à l'italienne. Vous savez, vous avez tu, voi et lei en italien. On va retrouver un peu la même chose en japonais, enfin, toute proportion. Mutatis mutandis, n'est-ce pas ?
Avant de passer aux études bouddhiques, une dernière question pour nous qui connaissons quand même mal le Japon. On le connaît différemment. On connaît le cinéma japonais en France, évidemment, les mangas, on connaît les dessins animés de Miyazaki. Bon. Mais est-ce qu'il y a une figure culturelle actuelle japonaise que les Français, que vous aimeriez faire découvrir au public français?
Mes préoccupations sont surtout du côté de la
pensée.
De
la langue et de la pensée.
Oui, de la pensée.
Mais
je suis... Je vais...
Pour le grand public, quoi.
Le grand public, ça sera un peu difficile, mais disons, au moins pour le grand public philosophique, oui. Je voudrais vraiment faire connaître un... D'ailleurs, je vais faire partie de mes cours de l'année prochaine, j'ai décidé de me lancer, la figure d'un philosophe japonais qui est mort en 1972, alors c'est déjà un peu ancien, mais qui est extrêmement singulier dans la mesure où c'était un grand spécialiste de Kierkegaard et de Heidegger, d'un côté, mais de l'autre côté, il était profondément versé dans cette école que j'étudie un peu, qui est le Tendai, qui a une structure philosophique, scolastique, extrêmement développée, et c'était le seul japonais, philosophe japonais contemporain qui ait pris à bras le corps les questions philosophico-religieuse japonaise ancienne pour les retransposer dans un système philosophique moderne.
Quel est son nom ?
C'est vrai, c'est une très bonne question. Il s'appelle Ishizu Teruji. Il n'est pas encore très célèbre. J'espère le faire connaître.
Vous allez peut-être le traduire aussi.
Je vais essayer de traduire son grand œuvre, qui est justement la recherche sur le concept de réalité dans le Tendai. Vous voyez que c'est tout un programme, et essayer d'accompagner cette traduction d'une sorte de, disons, de dictionnaire ou de commentaire, parce qu'on ne peut pas le lire d'emblée comme ça. Il présuppose vraiment la connaissance de toute une tradition. Et c'est quelqu'un qui n'est pas assez connu au Japon non plus.
D'accord.
Et je dois dire que c'est regrettable, parce que la philosophie japonaise a été entièrement occidentalisée. Même les grands philosophes écrivains japonais qu'on connaît un peu en Occident, que sont Nishida Kitaro par exemple, sont bien sûr influencés par la pensée extrême orientale, mais Ishizu Teruji a vraiment une œuvre singulière et je voudrais la faire découvrir. Voilà,
alors
ce n'est pas un peintre ni un cinéaste, mais je pense que c'est quelqu'un d'important.
Merci Jean-Noël Robert. Nous allons marquer une petite pause et reprendre la suite dans quelques instants de cet entretien.
Il a eu pour amis et modèles Pablo Picasso et Jean Cocteau. Il s'est passionné pour la corrida, les nus, les gitans et les étangs. Il est le premier photographe à entrer à l'Académie des Beaux-Arts. Lucien Clergue est venu dans notre studio pour retracer son parcours dans une émission en habit vert. Cette émission est disponible sur Canal Académie par le moteur de recherche en tapant Clergue ou en passant par la liste des académiciens.
Nous retrouvons Jean-Noël Robert de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Jean-Noël Robert, comment et pourquoi en êtes-vous arrivé à devenir un spécialiste des religions et de leur histoire ? Les études bouddhiques.
C'est une très belle question aussi, parce que je pense que je ne me qualifie jamais d'historien des religions, mais à vrai dire, c'est en effet ce que je voulais devenir au tout début, parce que bon, comme beaucoup de gens de ma génération, j'ai découvert la Mircea Eliade. C'était très amusant. C'est monsieur, si je puis évoquer sa mémoire, parce qu'il est mort maintenant, c'est monsieur Lee Hogg, qui était professeur de coréen à langues orientales, qui m'a conseillé pour la première fois de lire le traité d'histoire des religions de Mircea Eliade, qui a été un enchantement pour moi, puisque je découvrais... j'étais déjà intéressé de longue date au bouddhisme, si vous voulez, mais la possibilité d'étudier les religions, à la fois le bouddhisme, le christianisme, dans un cadre qui ne relevait ni de l'une ni de l'autre religion, mais dans une... ce qu'on aurait pu penser être une science, une nouvelle science à l'époque plus générale, ça m'avait vraiment enchanté.
Et ça, c'était dans les années
1967-8, je pense.
C'était encore très jeune.
Oui, j'étais en première année de langues orientales, donc et peut-être 68-69, je pense, mais c'était autour de 68, en tout cas, ça a été révolutionnaire pour moi aussi, de ce point de vue. Et j'ai commencé à lire beaucoup de choses de Mircea Eliade, d'abord avec une grande admiration et puis ensuite avec quelques doutes parce que, comme vous l'avez vu, je m'intéresse beaucoup aux langues et je voyais que quand même Mircea Eliade ne travaillait pas sur les sources premières, ce qui était et il a fait un grand livre sur le bouddhisme indien, n'est-ce pas, sur le yoga, immortalité et liberté. Il a étudié à Calcutta auprès d'un grand maître, d'un grand érudit de l'époque, les textes sanscrits, mais je pense qu'on peut être sûr, il n'a jamais travaillé sur une source sanscrite qui n'ait pas été traduite en langue occidentale. Et je me suis dit, là quand même, il y a... c'est à la fois ce grand panorama des religions que constitue souvent la science des religions, est forcément limité par les capacités humaines à apprendre les langues. Et je me suis dit, il va falloir quand même entrer dans l'un de ces domaines pour maîtriser cela de façon philologique avant de pouvoir dire quoi que ce soit. J'ai choisi le bouddhisme alors pour une raison. Je m'intéressais bien sûr à la Chine et au Japon déjà, et c'était quand même l'une des grandes religions de ce domaine. Et puis le bouddhisme s'étendait à toute l'ère asiatique, n'est-ce pas ? De l'Inde à l'Asie centrale, à Java. Le bouddhisme était le trait d'union de l'Asie d'une certaine façon. Oui. Et je me suis dit, lançons-nous dans le bouddhisme. Je n'ai jamais pu sortir beaucoup du bouddhisme sino-japonais qui est suffisamment important. Mais c'était en effet l'histoire des religions qui m'a mené par spécialisation graduelle au bouddhisme.
Jean-Noël Robert, vous êtes un spécialiste du bouddhisme. Vous avez publié des publications très savantes sur les différentes écoles du bouddhisme, comme votre thèse, Doctrine de l'école japonaise Tendai au début du IXe siècle. Vous êtes responsable du dictionnaire encyclopédique du bouddhisme, d'après les sources chinoises et japonaises. C'est une longue édition, une longue aventure éditoriale. Vous êtes responsable du 9e volume. Et puis, également, sous votre plume, on trouve une petite histoire du bouddhisme dans la collection Librio, bien connu. Alors, Jean-Noël Robert, quelle est votre définition du bouddhisme qui est à la fois l'objet d'une incommensurable pluralité, comme toutes les religions, mais évidemment, je me dois de vous poser cette question.
En effet, c'est incommensurable pluralité. C'est vrai que dans l'histoire des religions, dans les religions comparées, le bouddhisme a une position assez originale, peut-être un peu frustrante pour celui qui l'étudie, justement. Parce que, aussi bien dans le christianisme que dans l'islam ou le judaïsme, il y a certainement beaucoup de courants divers, mais les gens sont à peu près d'accord sur ce qu'est une Bible, sur ce qu'est un Coran, sur ce qu'est un Tanakh ou la Torah. Dans le monde bouddhique qui est immense, puisqu'il s'étend encore maintenant de Sri Lanka jusqu'au Japon, et dans une bonne partie de la Chine et des pourtours de la Chine, Tibet, Mongolie, Buryatie,
On quantitativement, on sait combien.
Pardon. C'est très difficile. C'est très difficile.
C'est-à-dire
que si on a une idée, on a de bonnes idées. On peut dire que 90% même plus de la population thaïlandaise est bouddhiste. Pour le Cambodge, c'est le même ordre d'idée. Mais pour la Chine, on peut absolument rien dire.
D'accord.
On peut sans doute dire que les
globalement trois... en Asie.
Écoutez, non, vraiment, voyez, je vais vous donner un exemple très concret. Les Japonais sont 120 millions d'habitants, plus ou moins. Et quand on fait des statistiques sur les religions au Japon, les Japonais sont friands de statistiques, vous trouvez à peu près 80 millions de bouddhistes et 60 millions de shintoïstes. Parce qu'il fait 140 millions d'habitants pour 120 millions. Vous voyez, évidemment, les légendes ne se définissent pas
par l'appartenance
aux... Alors il y a pour reprendre l'exemple du Japon, il y a une sensibilité bouddhiste, mais elle est assez diffuse. En Chine, c'est plus marqué peut-être, mais quand même, les gens vont aussi bien à un temple taoïste qu'à un temple bouddhique. C'est très difficile. Je dirais plusieurs centaines de millions, mais à part ça, je n'oserais certainement pas m'avancer. Pour reprendre l'exemple japonais, d'ailleurs, si vous rencontrez un japonais moderne, donc un japonais vivant, qui vous dise « je suis bouddhiste », ça voudra dire presque certainement qu'il appartient à une secte, c'est-à-dire un nouveau courant bouddhique moderne. Un japonais traditionnel est bouddhiste, il va au temple, mais il ne se dira jamais bouddhiste, n'est-ce pas? Alors j'aime beaucoup, évidemment c'est un peu ma déformation professionnelle en quelque sorte, puisque je m'occupe surtout du Japon, mais j'aime beaucoup cette conception du bouddhisme, plutôt comme, j'avais parlé autrefois de bruit de fond, n'est-ce pas? Bruit de fond culturel. Et c'est, pour le Japon, ça va très bien. C'est-à-dire, on est dans une atmosphère bouddhiste, mais qui n'est jamais contrainte, forcée ou forcée sur les autres. Très souvent, j'ai l'impression quand même dans pas mal d'endroits de l'Asie, ça tient. Mais le bouddhisme, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que contrairement à la différence de ces grandes religions monothéistes et même l'hindouisme qui reconnaît quand même la prépondérance des Védas avec quand même un texte bien défini, vous ne trouverez entre Sri Lanka et le Japon, pour prendre deux extrémités, vous ne trouverez pas d'écriture bouddhique commune au même niveau, reconnu au même niveau dans ces deux sociétés. Vous aurez le Sutra du Lotus, par exemple, n'est pas lu à Sri Lanka. Il n'est même pas dans le canon bouddhique sri lankais. Et ce qui est dans le canon bouddhique sri lankais est dans le canon bouddhique chinois à une position très inférieure, n'est-ce pas? C'est pour donner une idée de ce qui est de la difficulté d'établir un concept unique du bouddhisme, unifiant du bouddhisme.
Qu'est-ce que le mot Bouddha désigne?
Eh bien, c'est un mot qui est assez, j'allais dire presque banal, mais il vient d'une racine qui veut vraiment dire éveiller, s'éveiller. D'ailleurs, en russe, bouddhitsien, n'est-ce pas, ça veut dire encore se réveiller. C'est la même racine à l'européenne.
Oui.
Et ça veut dire s'éveiller un peu comme si on parle d'un enfant éveillé, donc comprendre, la bodhi, qui est l'acte d'éveil, c'est aussi la compréhension. Donc le Bouddha, et c'est ça qui est très intéressant par rapport aux autres religions, évidemment, il a apporté un message, mais c'est un message de découverte. C'est-à-dire, il a plutôt transmis sa découverte, il a compris, il s'est éveillé au dharma, n'est-ce pas, qui est l'ordre du monde, il a compris l'ordre du monde. Et c'est encore une bonne différenciation entre le bouddhisme et la plupart des autres religions, même si l'on venait à dire que le Bouddha historique n'avait pas existé, ou pour une raison ou pour une autre, ça ne changerait rien au message bouddhique, puisque il est censé avoir rapporté une description du monde, une intelligence du monde. C'est une sorte de loi naturelle. Et c'est la grande différence entre les révélations personnelles et cette espèce de rapport, en quelque sorte. Le message du Bouddha, c'est un rapport sur le monde. Et comment se débrouiller. Comment échapper au monde.
Voilà, comment échapper.
En connaissant ses lois.
Voilà. Vous venez d'évoquer le Bouddha historique. Bon, mais on a des écritures et bouddhiques. Mais au début, même si vous allez nous expliquer sûrement tout ça, la transmission de ces prédications s'est faite oralement. Les écritures bouddhiques sont si nombreuses qu'on parle de canons bouddhiques. Alors, commençons peut-être par le plus célèbre, si je ne me trompe, hein, vous me le dites, Jean-Noël Robert, qu'est-ce que le grand véhicule ?
C'est le grand véhicule, comme le nom l'indique, il s'oppose au petit véhicule, et donc on comprend tout de suite que ce ne sont certainement pas les tenants du petit véhicule qui reconnaissent cette distinction. Donc c'est un peu un label de qualité que se sont octroyés un certain courant bouddhique qui s'est largement répandu d'abord en Inde, puis vers la Chine et le Tibet. Et c'est à l'opposé d'un courant qui se nomme encore lui-même la doctrine des anciens, Theravada, c'est celui qui est conservé en Asie du Sud-Est. Et c'est un bouddhisme, disons, plus libéré des contraintes monastiques, n'est-ce pas? Disons que dans le Theravada, dans ce qu'on appelle le petit véhicule, ça serait un peu hors de l'église, point de salut, c'est-à-dire qu'on ne peut mener à bien les préceptes du bouddhisme que dans le cadre d'une vie de moine, alors que dans le grand véhicule, on a plus de latitude pour gagner son salut, mériter la libération en dehors de la vie de moine et peut-être sans suivre les règles strictes qu'impose la vie monastique. Enfin, c'est une simplification, mais c'est évidemment ce grand véhicule qui a conquis la Chine et le Japon pour se transformer après dans les différents courants comme le Zen, etc.
N'est-ce pas? C'est un texte majeur.
Alors, le grand véhicule n'est pas un texte, c'est plutôt une classification de textes. Vous avez le canon du grand véhicule. Vous avez toutes les traditions bouddhiques, grandes et petites d'ailleurs, puisque on trouve maintenant des canons, donc des collections de textes qu'on ne soupçonnait pas et qui ont existé, dont on voit qu'elles ont existé. Mais chaque tradition se fixait son propre corpus de livres et centré bien sûr sur sa doctrine. Et non seulement chaque tradition, mais après chaque domaine culturel. Vous avez un canon bouddhique donc issu de Ceylan, Sri Lankais, qui s'est transmis à l'ensemble de l'Asie du Sud-Est. Vous avez un canon bouddhique tibétain, des canons bouddhiques, on pourrait dire. Oui. Vous avez des canons bouddhiques en chinois, et les japonais ont repris tel quel, n'est-ce pas ? Vous en avez en mongol et en manchou, n'est-ce pas ?
Donc c'est ça aussi la particularité d'avoir des canons écrits dans les langues des sociétés qui ont adopté le bouddhisme.
En effet, c'est une question très importante.
Donc, parce qu'au début, quelle était la volonté du Bouddha, j'allais dire.
C'est vrai que la question des langues dans le bouddhisme, le Bouddha a laissé, enfin, d'abord, vous savez que ce que l'on connaît du Bouddha est quand même très postérieur à son existence historique. Même, enfin, si l'on admet qu'il est mort alors maintenant, vous savez, on a tendance de plus en plus à raccourcir à le rapprocher de la date de sa mort de nous, mais disons qu'entre le 5e et le 4e siècle avant Jésus-Christ, et les connaissances concrètes que l'on a sont au mieux, datent au mieux du milieu du 3e siècle, et encore elles sont bien petites, et les grands textes écrits sont beaucoup plus tardifs, autour du début de l'ère chrétienne. Mais il est vrai qu'au début, le Bouddha ne voulait pas qu'on prêche dans des langues de tous les pays, enfin, excusez, les régions de l'Inde à son époque, puisqu'il ne connaissait pas d'autres pays, certainement. Et puis, donc, la langue parlée, en quelque sorte. Il y aurait même un précepte de lui qui interdisait c'est un peu ambigu, mais disons d'utiliser la langue de prestige. Alors on dit c'est le sanskrit, mais disons d'utiliser la rhétorique. Voilà. Alors on dit c'est donc la poésie sanskrite, et donc le Bouddha interdit d'écrire en sanskrit. C'est l'une des explications. En tout cas, il n'a pas été très écouté, parce que justement le grand véhicule s'est transmis en sanskrit quelques siècles plus tard.
Il y a une grande richesse des langues de ces sources premières qui vous intéressent.
Oui, je ne suis pas du tout indianiste, mais ce qui m'a vraiment fasciné, c'est le transfert justement de ce message qui était de plus en plus diversifié. Et évidemment, je pense que c'est pas faire injure aux bouddhistes en disant, parce qu'après tout, pour eux, ce n'est pas une contrainte rationnelle majeure, n'est-ce pas, que la grande majorité des textes attribués au Bouddha dans les canons du grand véhicule ne proviennent pas du Bouddha historique, mais ont été, pour nous qui sommes plutôt historiens, sont postérieurs, ou bien sont issus d'autres mondes bien plus éloignés que celui du Bouddha historique. Mais il y a cette aventure intellectuelle extraordinaire, justement, qui est le transfert du message bouddhique des langues indiennes, qui sont très proches de nous, en fin de compte, n'est-ce pas? Je vous ai parlé du russe tout à l'heure, n'est-ce pas? Le sanskrit est un russe un peu plus difficile. Enfin, je plaisante, bien sûr, mais c'est une langue indo-européenne, un grec, grec, latin. Souvent, d'ailleurs, les gens faisaient grec, latin, latin, grec, sanskrit. Et on passe dans cet univers chinois où les repères à la fois linguistiques et conceptuels ne sont plus du tout les mêmes, n'est-ce pas? Pour vous dire une chose très, très, très concrète, le chinois n'éprouve pas le besoin de préciser le pluriel ou le singulier, comme le japonais d'ailleurs. Le système des temps n'existait pas en chinois. Et tout cela était, il fallait transposer tout cela en chinois. C'était un très long travail intellectuel qui a donné des fruits remarquables, mais qui s'est fait à coup de tâtonnement, de repentir, de retour, de conflit.
Oui, sur la doctrine aussi.
Oui, oui, et tout cela était.
C'était des allers-retours entre l'écriture et les idées.
Et ce qui est très amusant aussi, c'est que on traduisait le même concept indien par plusieurs mots chinois, si bien qu'on pensait que c'était des concepts différents.
Oui.
Alors après, on s'est battu sur des concepts qui étaient en réalité le même mot, les mêmes à l'origine.
Alors, quels sont les grands textes du bouddhisme? Peut-être les grands canons, je ne sais pas comment.
Oui.
Donc,
c'est difficile. Justement, voilà, vous mettez le doigt encore sur un point délicat. Les gens n'avaient. Je dis dans ce petit livre que. Je me trahis moi-même, mais il ne faut jamais. Il est pratiquement impossible de parler du bouddhisme en général. Il faut toujours le situer dans le temps et dans l'espace. Mais alors, si nous prenons, disons que dans ces grandes traditions du petit véhicule, pour reprendre Theravadin, n'est-ce pas, les gens, on lisait quelques textes, quelques condensés de textes. On avait évidemment les moines étudiaient par cœur certains grands textes. Je ne sais pas si on l'a jamais. Certains étaient censés connaître l'ensemble des trois corbeilles du canon par cœur, mais personne ne les. Enfin, je ne sais pas si ça se fait encore maintenant. Mais on ne lisait pas les écritures individuellement, si vous voulez, comme les gens peuvent lire le Coran, ou bien chacun a son livre de prédilection de la Bible, n'est-ce pas, ou de son évangile. Non, ça ne se faisait pas. On faisait soit on participait à des cérémonies.
Oui, on n'a pas parlé pratiquement comment ça se.
Oui, voilà, on participe. Oui.
Quelle est la pratique?
Oui, mais disons, on récitait des textes qui pouvaient être des simplifications de certains enseignements bouddhiques, mais ce n'est que peut-être en Extrême-Orient qu'on a commencé à voir des livres individuels, donc des sutras, des canons, des livres canoniques, mais extraits du canon pour acquérir une sorte de vie indépendante. Ce qui est beaucoup moins le cas au Tibet, en Mongolie, et encore moins évidemment dans l'Asie
du Sud-Est. Et au Japon, c'était le cas.
Alors au Japon et en Chine même, parce que ça a commencé quand même en Chine, le Sutra du Lotus a acquis un énorme poids culturel, parce qu'il était lu au-delà des cercles monastiques, n'est-ce pas? Il y a des...
Alors parlez-nous du Sutra du Lotus que vous avez traduit. Présentez-nous
c'est un peu frustrant de parler du Sutra du Lotus, parce que je vais reprendre le mot très méchant d'un penseur japonais du 18e siècle qui était anti-bouddhique, n'est-ce pas, qui s'appelait Hirata Atsutane, qui c'était l'époque où les Japonais redécouvraient leur identité nationale et un peu contre le bouddhisme, en se faisant les dents sur le bouddhisme. Et Hirata Atsutane, parlant du Sutra du Lotus, avait dit: on croirait une prescription, on croirait de la réclame de pharmacien pour les bobos, n'est-ce pas? Parce que vous allez écouter ça, tout va aller bien. Et c'est vrai que le Sutra du Lotus est avant tout une mise en relief de l'efficacité du Sutra du Lotus. Et le Bouddha, ça me rappelle un peu cette plaisanterie de potache, n'est-ce pas? Il dit qu'il va le dire, il dit qu'il le dit, et il dit qu'il l'a dit. Et c'est vrai que le message en lui-même est un peu court, crypté, et il y a énormément de discours sur l'importance du message. Et puis quand vous demandez aux nombreux commentateurs du Sutra du Lotus au cours des siècles, où est le message du Sutra du Lotus, chacun va vous donner, enfin pas chacun, mais il va y avoir des réponses très différentes. Essentiellement, le Sutra du Lotus est un sutra un peu militant, contre le petit véhicule, justement. Et il dit que tout ce que le Bouddha avait dit auparavant sur le nirvana, sur la communauté monastique, sur l'utilité de pratiquer minutieusement les différents niveaux de contemplation, etc. Tout ça, c'était simplement des expédients, n'est-ce pas, des stratagèmes salvifiques, et qu'en réalité, le vrai message du Bouddha, le véhicule unique du Bouddha, est bien au-delà de toutes ces manifestations un peu phénoménales. Et en particulier, ils mettent en cause l'un des concepts les plus fondamentaux, puisque on peut dire que la plupart des bouddhistes du monde entier reconnaissent Shakyamuni comme leur fondateur, un Bouddha qui est entré en nirvana. N'est-ce pas, on a encore les images du nirvana au Japon même, n'est-ce pas, il dit, mais ce nirvana que je vous ai montré, c'est de la blague, mais du théâtre, en quelque sorte. C'était pour vous montrer qu'il était possible de mener à bien la pratique bouddhique. Mais en réalité, le nirvana réel dans lequel je suis, il est absolument incommensurable avec ce que je vous ai montré. Donc, il détruisait en quelque, il sciait la branche du bouddhisme. Et c'est très amusant de voir que ce sutra a eu quand même un énorme impact en Extrême-Orient. Et alors que c'est un sutra je pense aussi à ce que pourraient dire certains amis ou collègues japonaises, mais c'est presque un sutra de négation, en quelque sorte, de ce qui faisait l'essentiel du bouddhisme.
Je ne vous ai pas demandé tout à l'heure quelle était la particularité du bouddhisme japonais par rapport aux autres.
C'est très difficile à dire, mais parce que c'est un bouddhisme, le bouddhisme japonais est en quelque sorte un bouddhisme secondaire par rapport au chinois, mais c'est cette secondarité même qui lui a donné une certaine liberté de mouvement. C'est-à-dire qu'ils avaient un canon bouddhique en langue chinoise, que les gens comprenaient plus ou moins, et puis ils l'interprétaient en langue japonaise et selon leurs propres idées, si bien que si vous aviez de façon superficielle l'aspect extérieur, un bouddhisme identique, en réalité les gens les comprenaient de façon extrêmement différente. Pour reprendre l'un des plus l'une des grandes controverses du bouddhisme sino-japonaise, c'est la nature de Bouddha, n'est-ce pas, c'est-à-dire alors déjà on est loin des doctrines sanskrites indiennes, mais quelqu'un qui possède la nature de Bouddha. Ensuite, cette nature de Bouddha est-elle dans l'ensemble des êtres ou non, peut-on la faire apparaître lorsqu'elle y est, même si on s'est lié, parce que c'est pas tout d'avoir la nature de Bouddha, il faut la mettre en évidence. Et puis ensuite, on sait, alors à chaque fois il y a une sorte de processus de d'évaluation, n'est-ce pas, il y a une doctrine qui semble très très radical, et puis on se dit mais c'est pas assez, il faut aller plus loin, parce que c'est un peu ce mouvement qu'on trouve dans beaucoup de sutras, dont le sutra du lotus, il faut toujours dépasser ce que l'on dit, si bien que pour reprendre la nature de Bouddha, les êtres, bon d'accord, les animaux, ça va de soi, mais après alors, et les plantes et le végétal, est-ce que ça a un sens d'ailleurs de parler d'une doctrine d'une nature de Bouddha chez les êtres séparés, n'y a-t-il pas qu'une seule nature pour l'ensemble, etc., etc. Vous voyez, il y a toujours ce mouvement de dépassement qui fait l'intérêt de l'histoire de la pensée bouddhique.
Est-ce que la supériorité du pouvoir religieux par rapport au pouvoir politique, ça a également fait l'objet d'une controverse au Japon?
En Chine et au Japon, bien sûr.
Parce que ça, c'est peut-être pas très connu des non-spécialistes, non. Et en même temps, ça fait partie du grand mouvement.
Ça a été des controverses qui ont été... au Japon, ça a quand même été vite réglé, si j'ose dire, parce que, disons, les controverses ont été plus approfondies en Chine, n'est-ce pas?
Pour le Japon, c'est au 19e, au moment de l'ère Meiji, et puis pour la Chine.
À l'époque de l'ère Meiji, là, c'était le Shinto.
Réglé.
C'était le Shinto.
Oui, mais c'était quoi?
Alors là, on a imposé le Shinto, c'est-à-dire
comme
on a refait.
D'état.
Oui, et certainement. Alors, c'est mon opinion et je la partage, comme je disais, Dupont et Dupont. Mais vous savez, le concept de religion nationale à l'époque de Meiji, alors la religion d'État dont on a voulu faire le Shinto, et puis ensuite on a, voyant les conflits que ça crée, on a dit bien, c'est une religion d'État, mais ce n'est pas une religion. Donc, on n'avait plus le droit d'appeler le Shinto religion. Donc, c'était une sorte de culte civil rendu à l'empereur pour éviter justement que les chrétiens ou même certains bouddhistes s'opposent à cette religion. Mais c'est entièrement un concept entièrement modelé sur l'Occident, n'est-ce pas ? Les Japonais avaient cru définir certains éléments de la supériorité technique occidentale et scientifique. Ils ont dit en particulier le christianisme doit jouer quelque chose là-dedans.
Avant, donc, la question ne s'est pas posée alors.
Alors avant, il y avait à propos du bouddhisme même quelque chose. Évidemment, la communauté bouddhique, le sangha comme on dit, était un groupe social très important, même s'il était éclaté en plusieurs écoles. Mais disons que le moine était un groupe qui pouvait qui aurait pu s'opposer à l'empereur. La question s'est posée en Chine, n'est-ce pas ? Entre l'empereur et le chef de le patriarche de la communauté monastique, qui devait saluer l'autre le premier, par exemple. C'est presque impensable quand on connaît l'histoire chinoise, mais le problème s'est posé. Et à l'époque des Tang, il a même été résolu à un moment au profit du bouddhisme. Au Japon, on n'a jamais eu ce genre de problème, mais il y a eu des cas de conflit entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux, et ça a toujours été réglé par la victoire du pouvoir politique. Par exemple, il y a une très malheureuse controverse de l'histoire d'une petite favorite de l'empereur au XIIIe siècle qui avait décidé d'entrer dans les ordres, et ça a été la réaction impériale a été très très dure, n'est-ce pas ? Et d'ailleurs, c'est très amusant si vous allez dans l'un des grands temples bouddhiques des environs de Kyoto. Vous avez le temple de le monastère de Len Ryakuji qui est au nord-est de Kyoto. Vous avez un magnifique temple qui a été reconstruit, bien sûr, mais reconstruit au cours des générations en état. Et vous avez la terrasse. Vous avez une grande statue du Bouddha avec les moines, la communauté monacale et les fidèles qui font leur cérémonie au pied de ce Bouddha, et vous avez une sorte de terrasse ou de mezzanine où ceux qui sont assis sont exactement à la hauteur du visage du Bouddha. Et c'était non seulement pour l'empereur de la famille impériale, mais pour les nobles. C'est pas, les nobles n'avaient pas à se mettre sous le Bouddha. Ils étaient au même niveau, vous voyez à quel point ça pouvait aller.
Jean-Noël Robert, marquons une courte pause si vous le voulez bien et retrouvons-nous dans quelques instants.
Merci.
Les académiciens de l'Institut de France s'expriment au micro de Canal Académie. Retrouvez le témoignage de François Jacob de l'Académie française dans notre médiathèque en libre écoute et libre téléchargement. François Jacob évoque sa carrière de biologiste, prix Nobel de médecine, ainsi que son entrée à l'Académie française. Un témoignage exclusif sur Canal Académie.
Nous retrouvons Jean-Noël Robert de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres pour la suite de cet entretien. Jean-Noël Robert, nous évoquions tout à l'heure dans les grands textes, les canons bouddhiques, etc. Vous qui êtes philologue, traducteur et qui connaissez bien ces sources et ces sources premières, quel grand penseur bouddhiste, quel moine savant de l'histoire du bouddhisme vous appréciez de lire ?
Disons, le grand penseur de l'école que j'étudie plus particulièrement, qui est chinois, un chinois du 6e siècle, et qui s'appelle Chuyi. Alors, la prononciation japonaise est Chingyi, et qu'on appelle aussi le maître du Tendai ou du Tiantai en chinois. Alors, pour éviter les conflits de prononciation, je traduis maintenant littéralement la terrasse céleste. C'est le grand maître de la terrasse céleste. Il a vécu au 6e siècle, il est mort en 594. 17, pardon, et il a une œuvre immense derrière, il a laissé une œuvre immense, presque toute d'ailleurs une œuvre de sermon, mais qui a été prise par ses disciples, réécrite bien sûr, mais dès son vivant, presque, et il a surtout laissé ce qu'on appelle la trilogie du Tendai, pour reprendre une expression d'un de mes amis, les trois grands traités de l'école de la terrasse céleste, dont un que je traduis maintenant depuis une quinzaine d'années. Il est divisé en 10 livres, j'ai fait les 4 premiers.
Oui, vous avez publié 4 courts traités sur la terrasse céleste.
Oui, alors ça,
c'est autre chose.
Le premier court, ce que j'ai appelé la méditation puérile, est en effet du grand maître du Tendai. C'est un tout petit texte. Il est écrit en général des textes gigantesques, mais ça, c'est peut-être celui qui est le plus facile d'accès, puisque c'est un traité pratique de méditation.
Mais sur les exercices de respiration.
Oui, c'est très amusant. Quels sons il faut produire lorsqu'on a telle ou telle maladie, c'est très bien. Mais il a fait des choses beaucoup plus théoriques, et en particulier un texte que j'étudie, que j'ai traduit par sous le titre de « La somme de contemplation ». Et qui est vraiment une espèce de relecture du canon bouddhique, peut-être pas dans son intégralité, mais dans une bonne partie, vu à la lumière de son système doctrinal. C'est vraiment la scolastique dans le meilleur sens du terme, c'est-à-dire vraiment le cheminement d'une raison dans un contexte religieux. Et il a une énorme influence en Chine comme au Japon.
On est au Moyen-Âge ?
Il est au 6e siècle, en 597, à 57 ans. Il est mort, il n'a pas vécu très longtemps. D'ailleurs, même les gens de l'école du Tendai, ils disent qu'il ses réincarnations n'ont pas été très bonnes parce qu'il n'est pas monté à deux. Il a un peu trop pensé, n'est-ce pas? Plutôt, il aurait dû méditer davantage. Mais c'est ce côté justement penseur qui m'a séduit. Et c'est une véritable cathédrale, en quelque sorte, de raisonnement. Et c'est celui que je lis le plus volontiers parce que son style est très beau.
Alors, parlons un petit peu des organismes de recherche liés à votre domaine, justement. Vous avez étudié à l'Institut National des Langues Orientales, vous avez travaillé au CNRS, et puis vous enseignez à l'École Pratique des Hautes Études, faites partie de la Société Asiatique, vous êtes membre aussi de l'École d'Extrême-Orient. Quelle institution, parmi celles que je viens d'évoquer, a le rapport le plus fécond, enfin, c'est peut-être difficile ou délicat, par exemple, pour nos internautes qui voudraient s'intéresser ou de devenir japonologue, il n'y a peut-être pas un parcours
idéal.
Si c'est
pour devenir japonisant ou japonologue, il vaut mieux passer par les langues ou bien Paris 7, qui a aussi un très bon enseignement de japonais. Et puis ensuite, il faut se spécialiser.
Quelle est la particularité de l'école pratique des hautes études pour
C'est un endroit tout à fait... C'est vrai que tous les endroits que vous venez de mentionner sont tout à fait exceptionnels dans le monde, d'une certaine façon. Mais l'école pratique des hautes études a un statut très particulier puisqu'il ne relève pas tout à fait de l'université, bien qu'il s'en rapproche, je dirais presque malheureusement, on nous oblige à avoir de plus en plus un cursus de style universitaire avec master et doctorat, mais autrefois, et ça l'est toujours encore dans une certaine mesure, vous savez, le mot pratique soulève beaucoup de questions. Et en fin de compte, je pense que la définition la plus fidèle qu'on puisse en donner, c'est que les cours de cette école pratique des études consistaient à ce que les assistants regardent travailler le professeur, n'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'on enseigne toujours ce sur quoi on travaille. C'est en perpétuel, ce n'est pas un cours que l'on ressasse d'année en année.
En ce moment, vous travaillez sur quoi ?
Je travaille surtout toujours sur la poésie bouddhique japonaise. Mais jusqu'à l'année prochaine, une question tout à fait passionnante, j'ai travaillé sur les poèmes écrits par les grands moines bouddhiques en langue japonaise. Donc ce sont des poèmes où l'on trouve beaucoup de cerisiers, de fleurs de prunier, de toutes sortes de montagnes, etc., mais qui ont toujours un sens religieux crypté derrière. Et ce sont des poèmes que j'ai choisis, fondés sur le Sutra du Lotus. C'est-à-dire qu'ils maquillent sous un vernis entièrement poétique japonais, ils maquillent en réalité souvent des dogmes, des concepts bouddhiques très profonds et très subtils. J'essaye de découvrir peu à peu les codes qui existent. Ça n'a jamais été étudié au Japon, même alors qu'on sait très bien qu'il y a des codes poétiques, c'est-à-dire on connaît tous les codes de l'amour, tous les codes...
Vous auriez un extrait à nous dire Je
dis toujours le même, mais il me semble, c'est un peu à partir de ce vers que j'ai commencé justement cette recherche. Ça m'avait tellement fasciné. Alors je l'ai mentionné plusieurs fois, mais je le redis, c'est un poème d'un moine poète japonais des environs de l'an 1200. Et il est justement sur ce concept que je vous ai évoqué tout à l'heure, de la réalité des choses du Sutra du Lotus, sur lequel travaille ce philosophe dont je vous ai parlé. Donc nous savons que le poète fait ce poème sur ce concept du Sutra du Lotus parce qu'il l'a écrit au-dessus, n'est-ce pas ? Donc on ne peut pas inventer. Et il dit en japonais, alors je vous le dis en japonais,
oui, et puis vous nous le traduirez.
Tsuno kuni no naniwa no koto mo makoto to wa, Tayori no kado no michi yori zoshiru, n'est-ce pas ? Alors, si on traduit littéralement, ça veut dire la vérité, la sincérité même, parce que la sincérité de la baie de la baie de Naniwa dans la province de Tsu, c'est à Osaka. Cette sincérité de la baie de Naniwa de Tsu, on la connaît par la voix de la porte, alors j'allais dire de la porte de secours, de la porte de l'aide. Alors bon, les Japonais entendent Tsunokuni no Naniwa no Kotomo, ils savent qu'ils sont dans un poème parce que c'est un topos poétique très fréquent, n'est-ce pas ? C'est la baie de Naniwa dans la province de Tsu, c'est la baie d'Osaka. On se dit quel est le rapport avec la réalité des choses. En réalité, Naniwa Goto est un jeu de mots en japonais sur Naniwa no Koto, qui veut dire toute chose. Donc la baie de Naniwa a un jeu de mots sur toute chose. Et puis comme c'est la baie de Naniwa, on met la province de Tsu avant. Et Makoto, qui veut dire sincérité, écrite avec un autre caractère, veut dire aussi réalité. Donc vous avez en réalité, dans ce vers tout à fait poétique et anodin, vous avez exactement traduit le mot réalité des choses qui est dans le Sutra du Lotus. Et vous voyez, c'est comme cela que ça opère. Alors vous en avez à satiété, n'est-ce pas ? Je vais publier dans les jours qui suivent un corpus de 170 poèmes. Maintenant, je suis en train d'achever un corpus de 501 poèmes, et puis ensuite 1200, n'est-ce pas ? Et quand j'aurai fini, je vais faire ce dictionnaire. À chaque fois, je compose un glossaire qui va être une sorte de dictionnaire de la symbolique bouddhique de la poésie japonaise, qui n'a pas été faite au Japon, alors que c'est quelque chose qui est... On ne peut pas comprendre la poésie bouddhique japonaise du Moyen-Âge. Sans voir cela, j'ai toujours été étonné de voir que ça n'a jamais été étudié systématiquement au Japon, alors que c'est pour moi l'une des grandes voies d'accès à la compréhension du bouddhisme par les Japonais à l'époque médiévale.
Pour terminer cet entretien, Jean-Noël Robert, est-ce que vous pourriez nous décrire votre épée d'académicien ? La remise d'épée s'est déroulée en janvier dernier, en janvier 2008, à la Sorbonne. Quelle est la particularité de votre épée d'académicien ?
Eh bien, je me suis un peu inspiré de confrères aînés dans la voie qui... Par exemple, je pense à Jean-Pierre Mahé qui travaille sur l'Arménie et qui a choisi pour son épée d'académicien un sabre, je pense, caucasien. En tout cas, je ne me hasarderai pas à le définir arménien ou géorgien. Et Christian Robin aussi, qui a eu un cimetière libanais. Alors, un sabre japonais, les grands sabres japonais, c'est un peu démesuré, puisqu'ils sont très longs et il faut les tenir à deux mains, donc on ne peut pas avoir cela. Mais je pensais qu'un sabre de lait plus court, qu'on appelle wakizashi, conviendrait mieux, surtout que, comme vous le voyez sur cette illustration, souvent les lettrés japonais de l'époque d'Edo enseignaient avec ce wakizashi posé à côté de leur table de travail, où ils étaient accroupis. Ce ne sont pas des sabres de combat, bien qu'ils coupent, on peut se défendre avec, mais peut-être moins attaquer. Et je dois remercier ici mon ami le docteur Alain Briot, qui me l'a offert de sa collection personnelle, et en le personnalisant grâce aussi à un autre ami, Robert Buravoy, en faisant calligraphier sur le fourreau le titre d'un livre que j'avais écrit en japonais autrefois. Donc c'est plutôt que de graver la lame, qui est toujours un peu...
Le titre sur votre parcours...
Qui s'appelle, ça s'appelle Contempler le temple du cœur. Alors évidemment, en français, il n'y a pas la redondance en japonais, et c'était le titre d'un livre que j'avais fait autrefois sur c'est presque l'équivalent d'un document de synthèse en habilitation à diriger des recherches maintenant, mais c'était quelque chose d'extraordinaire, touchant.
Donc c'est sur le fourreau.
Sur le fourreau, voilà.
Que c'est gravé.
Ça a été écrit à la laque, oui. Je dois vous dire que c'est mes deux amis Alain Briot et Robert Buravoy qui sont bien plus savants que moi en matière de sabre, mais je pense tout à fait l'explication qu'on a donnée à Alain Briot, puisqu'il y a un tigre et une panthère, n'est-ce pas ? Ce sont alors pour un bouddhisant, c'est assez paradoxal, mais ce sont des animaux qui gardaient la grotte d'un immortel chinois, n'est-ce pas ? Et l'immortel, qui dit immortel, dit bien sûr taoïste, et ce n'est pas du tout bouddhisant, encore qu'on puisse concevoir qu'un moine bouddhiste médite dans une grotte, ça s'est fait d'ailleurs, mais disons que l'ambiance culturelle est plus nettement littéraire, taoïste chinoise. Mais c'est bien sûr japonais, et il faut savoir que les Japonais avaient repris toute la tradition littéraire chinoise, donc ce n'est pas du tout une aberrant. Le bonnet de mandarin que l'on trouve dans la lande, que l'on trouve dans la lande, sur l'herbe folle de la lande, alors là aussi, c'est merveilleusement adapté à ce que j'étudie aussi, puisque
ça figure sur
le tigre et la panthère, c'est sur la poignée, et l'herbe de la lande, c'est ce qu'on appelle le tsuba, n'est-ce pas, la garde, qui est un genre artistique tout à fait bien particulier au Japon, extrêmement développé. Et cette description de la langue me fait justement penser à mes poèmes bouddhiques japonais, où la langue, la lande et les herbes de la lande sont toujours une métaphore d'abord du monde phénoménal d'où il faut partir pour aller sur la montagne qu'est le Sutra du Lotus, et le vent qui ploie les herbes folles, donc qui ploie les herbes, c'est le vent du Dharma, du message du Dharma, n'est-ce pas ?
Tout est sur votre épée, là.
Il y a beaucoup de choses, oui, justement. C'était un cadeau très touchant, que tout à fait inattendu et inespéré. Je suis vraiment très, très, très heureux d'avoir cette prérogative d'un lettré japonais de l'époque d'Edo.
Quelle chance.
Oui,
alors, merci Jean-Noël Robert de nous avoir présenté le bouddhisme japonais, nous avoir parlé du canon bouddhique, enfin des canons, de votre passion pour le Japon, l'Extrême-Orient, de nous avoir aussi fait goûter à la poésie japonaise. Pour en savoir plus, pour ceux qui veulent en savoir plus, eh bien, je leur recommande bien entendu la lecture de vos ouvrages. La petite histoire du bouddhisme chez Librio, qui est vraiment une petite synthèse vraiment très agréable à lire avec beaucoup d'humour. Et puis les 4 courts traités sur la Terra Céleste qui viennent de paraître chez Fayard. Et puis pour les curieux, les pressés, pour ceux qui veulent tout savoir d'un simple clic, eh bien sachez que le canon bouddhique chinois est en ligne sur Internet. Alors Jean-Noël Robert, un grand merci pour cet entretien.
Merci infiniment.